Chapitre 45. Solman ne lisait aucune expression dans les yeux de l'ange maintenant fixés sur lui. Ou plus exactement, il y décelait la même vigilance impersonnelle que les chiens couchés dans la neige. Comme si la horde et son berger étaient pétris de la même essence, de la même énergie. Il marchait entre les fauves en s'efforçant de maîtriser les tremblements de sa jambe torse, de contenir une peur qui ne demandait qu'à jaillir comme une source froide et sale. Leur course ne semblait pas avoir marqué les chiens, dont le poil était resté sec. Leurs expirations lentes, à peine perceptibles, s'éparpillaient dans les sifflements du vent. Ils paraissaient être les modèles améliorés de ceux qui avaient attaqué le campement Aquariote quelques semaines plus tôt. Quelques semaines qui avaient duré un siècle. Mâchoires et pattes plus puissantes, poitrail plus massif, croc plus long, plus effilé, pelage noir et feu plus épais, plus luisant. Solman présuma que l'intelligence destructrice avait le pouvoir de modifier à loisir les caractéristiques de ses soldats. Qu'à chaque problème soulevé par ceux qui contestaient sa volonté hégémonique, elle puisait dans ses connaissances phénoménales, dans sa « magie », aurait dit Moram, pour proposer une solution adaptée. Les derniers hommes n'avaient que leur instinct de survie à lui opposer. Un acharnement à vivre qui enrayait parfois sa mécanique, mais tôt ou tard, il serait balayé de la même manière que la civilisation de l'ancien temps avait été laminée par les bombes à effets successifs et les armes génétiques. Solman s'immobilisa à 5 ou 6 pas de l'ange et transféra tout le poids de son corps sur sa jambe valide. Malgré le froid, il transpirait en abondance sous sa canadienne. Les chiens grondaient en sourdine, frustrés sans doute de ne pas pouvoir se jeter sur cette proie venue d'elle-même s'offrir à leur convoitise. Khadija franchissait la partie dégagée du plateau d'une allure soutenue. Elle s'était débarrassée de plusieurs couches de ses vêtements et n'avait gardé sur elle que sa robe. Elle faisait à Solman l'effet d'une apparition surnaturelle dans la lumière vibrante du soleil réfléchie par la neige. Il ressentait maintenant une joie profonde qui effaçait ses douleurs et ses peurs, qui éclairait les zones d'ombre, qui redonnait un sens à son errance, qui, par contraste, dévoilait la véritable nature des chiens et de l'ange, la férocité des uns et la beauté androgyne de l'autre. Ne renfermait que des créatures mécaniques, sans âme, sans flamme. Il captait venant de l'arrière les notes d'inquiétude et d'espoir des aquariotes massés à l'intérieur du mur rutilant des camions. Khadija traversa la horde sans prêter attention aux formes sombres disséminées dans la neige. Elle se dirigea d'abord vers Solman et, arrivée près de lui, lui caressa la joue du dos de la main avec un sourire dont la chaleur inhabituelle le fit frissonner de la tête aux pieds. Solman, elle avait prononcé son nom comme un soupir de regret, d'une voix tellement basse qu'il crut l'avoir confondu avec un murmure du vent ou le gémissement d'un chien. Hébété, étourdi par la chaleur de la jeune femme, il prenait conscience qu'elle avait aboli en partie les distances. Mais il se montrait incapable de répondre à son sourire et au contact de sa main. L'ange les contemplait sans qu'un voile de trouble ou une lueur d'intérêt ne daigne ajouter une touche d'humanité à son regard. Leur comportement ne paraissait ni l'étonner, ni le contrarier, encore moins le réjouir. Il restait impassible, comme un soldat attendant les ordres. Le silence isolait le plateau du reste du monde, étouffait tout bruit parasite qui aurait nui à la pureté de leur échange. Solman devinait qu'elle avait dû pourvenir à lui, renier en partie sa nature et surmonter la terreur incommensurable gisant dans sa mémoire cachée. De la même façon que les obligations de donneur le poussaient sans cesse à s'élever au-dessus de la condition humaine, elle avait dû s'affranchir de sa propre condition pour descendre vers lui, pour s'humaniser. Il s'attirait comme la lumière attire l'ombre, comme les ténèbres révèlent les étoiles. Ils avaient besoin l'un de l'autre pour relier le ciel et la terre, le jour et la nuit, le vide et la matière, le passé et l'avenir. Elle se détourna et s'avança vers l'ange. Au bout de quelques minutes d'un silence que Solman interpréta comme une communication silencieuse, l'ange mit un genou à terre et inclina la tête dans une attitude de soumission totale qui évoquait l'adoration d'une créature pour une déesse. Le donneur avait maintenant la confirmation que Khadija appartenait au monde de l'intelligence destructrice, mais qu'elle s'y était opposée pour une raison encore indéterminée. L'ange la reconnaissait en tout cas comme une entité supérieure, et, à bien les observer, l'évidence s'imposait que son apparence n'était que le reflet imparfait, incomplet de la jeune femme. Les cheveux étaient de la même soie bouclée et noire, la peau de la même texture. Les traits avaient la même finesse, mais quelque chose d'indéfinissable, la lumière du regard peut-être, traduisait leur appartenance à des niveaux différents de la hiérarchie. Les oreilles baissées, la queue repliée, les chiens poussaient des aboiements sourds, plaintifs. L'ange se releva au bout de quelques minutes, et sans qu'il esquisse un geste, sans qu'aucun son franchisse ses lèvres, les chiens sautèrent sur leurs pattes et s'éloignèrent en sa compagnie vers le bord du plateau. « Ils ne vous feront plus de mal. » Khadija avait parlé sans se retourner, mais cette fois, Solman avait parfaitement discerné le son de sa voix, une voix dont le timbre harmonieux, envoûtant, se devinait sous les hésitations. « Ils nous aideront, » poursuivit-elle. « Je leur ai demandé d'être nos gardiens. » Solman s'approcha d'elle, le cœur battant. Elle avait recouvré, ou découvert, l'usage de la parole, et même si ce mode de communication était moins précis que la vision ou la pensée, il aurait le mérite de faciliter leur rapport. Tant de questions se pressaient dans sa gorge qu'il ne savait par laquelle commencer. Pourquoi t'obéissent-ils ? Elle lui lança par-dessus son épaule un regard où il lui sembla entrevoir de la mélancolie. « Je suis marqué du sceau. Ils me reconnaissent. »« Quel sceau ? » ?»« Le sceau des justes. Les êtres intermédiaires sont ainsi conçus qu'ils ne peuvent pas déplaire aux saints. »« Pourquoi t'obéirait-il à toi et pas à l'intelligence destructrice ?» Khadija le considéra pendant quelques instants avec une expression qui oscillait entre intérêt et perplexité.
« L'intelligence destructrice ?»«
Celle qui a déclenché l'apocalypse, qui s'acharne à tuer les derniers hommes, à effacer toute trace de l'humanité sur Terre, qui commande aux anges, aux hordes de chiens, aux slangs, à la végétation, aux éléments. » Elle recula d'un pas, comme frappé par la précipitation rageuse avec laquelle il avait craché ces mots.
« Nous devons partir, »
dit-elle au bout d'un long moment de silence.
« Nous mettre à l'abri. »«
Elle nous traque où que nous allions !» s'écria Solman. Elle se rapprocha de lui et, à nouveau, lui effleura la joue. Un sentiment de pudeur le retint de se jeter dans ses bras, dans sa beauté, dans son odeur.
« Benjamin nous aidera à trouver une solution. »
Elle désigna d'un mouvement de tête les points décroissants et sombres de l'ange et de la horde, absorbés par la blancheur aveuglante de la neige.
« Eux n'ont pas d'autre choix que de m'obéir. »«
Qui sont-ils ?»«
Les serviteurs chargés de préparer la demeure des saints. »
Si les saints refusent de partager la terre avec les derniers hommes, c'est qu'ils ne sont pas aussi saints qu'ils le prétendent. Elle marqua un deuxième temps de silence. Ses cheveux tiraient des rideaux soyeux et fuyants sur son visage. La légère crispation de ses lèvres et les mouvements désordonnés de ses mèches faisaient ressortir la pureté irréelle de ses traits. La sainteté représente un degré d'évolution supérieur à celui de l'humanité. » Finit-elle par répondre.
de la même manière que les mammifères ont supplanté les dinosaures. Les saints sont destinés à remplacer les hommes.
En ce cas, pourquoi est-ce que tu nous viens en aide?
Je ne sais pas encore. Je sais seulement que je suis ici pour continuer ce que ma sœur a commencé.
Qui est ta sœur?
J'ai perdu sa trace. Je crois qu'elle est morte.
Son hésitation n'échappa pas à l'attention de Solman. Sa mort n'était pas prévue, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. La disparition de sa sœur la perturbait, ébranlait quelques-unes de ses certitudes. « Qu'est-ce qu'elle a commencé ?» insista Solman.
« Benjamin a éprouvé le besoin de l'envoyer sur Terre parce que les saints de la tribu ressentaient un trouble, un manque, quelque chose d'indéfinissable. Et nous espérions qu'elle pourrait trouver les raisons de ce malaise sur Terre.
Où est ta tribu? Dans l'espace?
Je ne suis pas autorisé à te le dire.
Nos règles de sécurité sont très strictes.
Nous perdons du temps. Nous devrons partir maintenant.
Elle pivota sur elle-même et se dirigea vers les camions. C'est alors seulement qu'il se rendit compte qu'elle ne portait plus de chaussures, qu'elle marchait pieds nus dans la neige. Il la rattrapa au prix d'un effort qui raviva la douleur à sa jambe gauche.
« Encore une chose, » haleta-t-il.
« Pourquoi as-tu attendu tout ce temps avant de parler ?»«
Parler est un mode de communication archaïque, »
répondit-elle sans modifier son allure.
« Parler transforme les structures mentales. Tu utilises parfois le langage pur de l'esprit, Solman. Mais tu es aussi et surtout un homme. Parler risque de me couper de la tribu, mais je n'ai pas d'autre choix si je veux me rapprocher de toi.
Rien ne t'oblige à te rapprocher de moi. Elle s'arrêta cette fois et le fixa avec une intensité brûlante.
Rien, en effet. Peut-être est-ce ce qui donne de la valeur à mes actes. Mais je ne parlerai à personne d'autre que toi. Je n'ai pas envie de me rapprocher des autres. »
Après avoir traversé le plateau, le convoi avait emprunté une piste et tiré en large méandre entre les reliefs d'un versant. En fait de piste, il s'agissait d'un sillon d'une dizaine de mètres de largeur, peut-être le lit d'une ancienne rivière ou encore un chemin creux labouré par les passages réguliers de troupeaux de vaches sauvages. L'épais tapis de neige n'empêchait pas les pierres et les ornières, par endroits aussi profondes que des ruisseaux, de cahoter camions, voitures et remorques. Les branches basses de sapins aux aiguilles noires, ou d'autres arbres pétrifiés, barraient de temps à autre le passage. Moram donnait alors trois coups de sirène, attendait que les autres chauffeurs arrivent avec des haches et des scies, puis descendait pour les aider à couper les branches, parfois plus dures que du béton. Solman les voyait s'agiter avec une frénésie décuplée par la présence des chiens qui suivaient les camions à distance et pointaient le museau dès que le convoi s'immobilisait. Le donneur leur avait assuré qu'ils n'avaient désormais plus rien à craindre de la horde, mais leur peur, telle des harpies, revenait les harceler lorsque les molosses se glissaient comme des ombres entre les troncs et surgissaient à quelques pas d'eux, la gueule entr'ouverte, la langue pendante, les crocs dégagés.
« Une chose est sûre, » fit Moram, après s'être installé sur son siège, « on n'aura pas assez de gaz pour atteindre la réserve de l'Île-de-France. »
Il lança un regard perplexe à Khadija, qui avait pris la place de Glenn sur la banquette. Convaincre le garçon qu'il lui fallait retourner dans la voiture auprès de sa mère adoptive n'avait pas été une tâche facile. Solman s'y était employé en lui promettant de lui rendre visite à la première halte prolongée. Le chauffeur enfila sa veste, poussa un long soupir et but une gorgée de kawa avant de démarrer.
« Dire qu'on ne sait même pas où mène cette foutue piste !»
ajouta-t-il en reposant le thermos dans le compartiment de la portière. Elle menait au fond d'une vallée encaissée, cernée de part et d'autre par des parois abruptes et hérissées de saillies rocheuses. Ils roulèrent avec une lenteur exaspérante sur la neige dure, face au vent violent qui s'engouffrait en mugissant dans la calandre et dominait par instant le ronflement du moteur. Ici régnait la désolation de l'hiver. Une pénombre persistante, lugubre, un froid exécrable qui transformait les rares arbustes en squelettes, qui armait le moindre relief de stalactites de glace plus affûtées que des lames.
« Un vrai putain de coupe-gorge !» marmonna Moram.
Il jetait des coups d'œil réguliers par la vitre pour surveiller la progression des chiens sur les lignes des crêtes. Bien que la question lui brûlât les lèvres, il n'avait pas osé demander à Solman comment la fille s'y était prise pour retourner l'ange et sa meute. Son intervention miraculeuse évoquait les pouvoirs des sorcières qui hantaient les légendes aquariotes, la chouine, par exemple, à qui il suffisait de pointer l'index sur les nuages pour déclencher une pluie de sang, ou encore la vanette, qui transformait tout ce qu'elle touchait en cendre froide. Moram ne l'aurait jamais avoué, même sous la torture. Mais dans sa petite enfance, les histoires que racontaient les anciens lors des longues veillées d'été l'avaient terrorisé au point d'en perdre l'appétit et de se cacher des journées entières sous les draps. La crainte sournoise que lui inspirait Khadija montrait qu'il subissait toujours l'influence de ses frayeurs d'enfant, et cette constatation n'arrangeait pas un moral déjà mis en berne par le paysage sinistre. L'impression de rouler sans but et la solitude à laquelle le condamnait le mutisme obstiné de ses deux passagers. Il se raccrochait à ce qu'il pouvait, en l'occurrence au visage de Hora, mais les joues pleines et le sourire timide de la jeune sourcière ne réussissaient pas à le délivrer d'une morosité qui l'imprégnait jusqu'aux os. Solman avait capté des bribes de la communication que Khadija avait établie avec sa tribu. Puis sa fatigue, accentuée par les bercements du camion, avait brouillé sa vision et l'avait peu à peu plongé dans une torpeur cadencée par les soupirs et les jurons de Moram. Le ressac obsédant de ses pensées le ramenait sans cesse vers la nuit cauchemardesque de l'assassinat de ses parents, vers le souffle de l'homme tapi derrière la toile de sa chambre. Les paroles prononcées par Mère Catherine, juste avant son exécution, se superposaient à ses souvenirs et le maintenaient dans un engourdissement boueux, nauséeux. Seule une nouvelle conversation avec Wolf pourrait trancher le lien qui le retenait dans le passé, qui l'empêchait de prendre son envol. Mais le scorpiote n'avait pas donné signe de vie, et même s'il avait l'habitude de ces longues phases de clandestinité, de cette existence de fantôme selon ses propres termes, Solman redoutait qu'il n'eût préféré le silence définitif à l'exhumation de la vérité.
« Bordel, du monde devant !»
L'exclamation de Moram, associée à un coup de frein brutal et aux trois coups de sirène réglementaires, produisit sur Solman l'effet d'un électrochoc. Il rouvrit précipitamment les yeux, eut besoin de quelques secondes pour reprendre pied dans la réalité, pour apaiser son souffle et les battements désordonnés de son cœur. Une sueur abondante, haïssable, collait ses sous-vêtements à sa peau et lui donnait l'impression de mariner dans un bain de miasme.
« On est coincé dans cette saloperie de goulet, » grogna Moram. « On peut même pas faire demi-tour, j'aime pas ça. »
Khadija n'avait pas réagi, comme si cette alerte ne la concernait pas. Le défilé baignait dans une pénombre indéchiffrable, scindée entre les crêtes des parois par le ruban bleu pâle du ciel. Solman distinguait à présent des formes imprécises et mouvantes dans le lointain. Il ne ressentait pas de douleur au ventre, mais un mal-être sournois se diffusait dans les moindres recoins de son corps. Des cascades noires et feu dévalèrent les parois de la gorge. Les chiens sautaient de rocher en rocher avec une telle rapidité, une telle agilité, une telle cohérence, qu'ils se fondaient dans un mouvement ondoyant et compact.